Bonsoir et bienvenue dans Graffiti Cinéma. Cette semaine, deuxième émission consacrée au handicap au cinéma en trois parties.
C'est magnifique.
Acte 1, nous recevons Julien Richard Thompson qui a réalisé le documentaire Pas de bras, pas de cinéma. Eh ouais, on n'est pas les seuls à être experts en jeu de mots.
On vous paye, il me semble, non ?
Il est aussi là parce qu'il est président du syndicat des professionnels du cinéma en situation de handicap. Au-delà du sigle, c'est un véritable travail de lobbyiste qui est fait dans les milieux du cinéma par notre invité cette semaine pour sensibiliser à la cause, évidemment, du handicap au sein même de l'industrie cinématographique.
Scene 1, Apple, take 1.
Acte 2, avec Juliette, on parcourt la filmographie et la sérifie. Le mot n'existe pas, mais on tient à l'inventer. On parcourt en tout cas toutes les représentations du handicap au cinéma, parmi les plus récentes, et en passant par la case culte évidente de Rain Man, qui a été longtemps à notre esprit pendant la préparation de ces émissions-là. Dans les séries, dans les films, on va parcourir des personnages et des personnalités qui ont représenté le handicap. C'est notre deuxième partie. Acte 3, Mathieu et sa chronique pas tout à fait dans le thème nous propose justement une initiative thérapeutique par le cinéma et par le pouvoir des images, quelque chose de tout à fait intéressant et pertinent qu'on peut même retrouver sur YouTube.
J'ai quelque chose d'important à vous dire.
Hé, hey, c'est quoi le texte ?
Comment on dit déjà ?
J'ai oublié.
Où est-ce que vous voulez en venir ?
Laisse tomber.
Graffiti cinéma.
Tcha! Graffiti cinéma.
Quoi, donnez-moi un chocolat.
Non.
Donnez-moi un chocolat.
Pas de bras, pas de chocolat. C'est une vanne, hein? Non, je déconne.
Ah, c'est une blague.
Ben oui, c'est une blague.
Ah, c'est une blague.
Elle est bien quand même.
Très bonne, c'est une très bonne blague.
C'est une vanne connue. Pas de bras, pas de chocolat, mais avec vous.
Allez.
Je peux directement commencer par vous présenter, évidemment, puisqu'on est avec donc Julien Richard Thompson. Alors, vous avez deux casquettes qui nous intéressent énormément pour cette émission sur le handicap au cinéma. D'abord, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci.
Alors, vous avez réalisé un documentaire que les abonnés de MyCanal et Cinéplus peuvent trouver directement sur la plateforme qui s'appelle Pas de bras, pas de cinéma. Donc, on va évidemment en parler. Et puis, vous êtes surtout à la tête du syndicat donc des professionnels du cinéma en situation de handicap. Hein. Vous êtes président donc, du coup, de ce syndicat. Et c'est évidemment pour ces deux aspects de votre carrière qu'on met en avant, qu'on voulait vous avoir aujourd'hui. On rappelle évidemment que vous êtes cinéaste, réalisateur, scénariste, évidemment, et vous en avez profité pour du coup vous sensibiliser sur cette question-là et mettre en avant dans ce documentaire. Donc je voulais commencer évidemment par vous présenter ce documentaire-là qui est important, Pas de bras, pas de cinéma.
Alors ce documentaire, en fait, je n'ai pas produit ce film, j'ai été en fait contacté par Otago Productions, qui est une société de production de documentaires qui fait beaucoup de films et qui avaient envie de faire un film sur le handicap. Alors, ils ont trouvé, en fait, je ne les connaissais pas, mais comme j'ai beaucoup écrit des articles, des tribunes dans la presse pour manifester toutes mes revendications par rapport à l'ouverture des métiers du cinéma aux personnes en situation de handicap. Donc, ouais, il m'a appelé tout naturellement et moi, tout de suite, j'ai dit, mais ce sujet est magnifique. Et donc, on est allé, on a dressé une liste des personnes qui seraient intéressantes à rencontrer et à interviewer. C'est aussi bien un sociologue, un historien, mais il y a surtout des acteurs, actrices, réalisatrices, réalisateurs, des professionnels essentiellement. Et on voulait des gens justement vraiment impliqués dans le cinéma et qui soient, pour certains, sont handicapés. Mm-hmm. D'autres sont pas du tout, sont tout à fait valides, mais ils ont fait des films, par exemple, sur le thème de l'inclusion. Alors, on a notamment dans le documentaire, on a Nakash et Toledano, le duo.
Oui, bien sûr.
Qui fait les films.
L'origine intouchable.
Intouchable, etc. À la fois, on parle de la place du handicap à l'écran, du regard que porte le cinéma sur les personnes handicapées. Mm-hmm. Et aussi, on aborde la question des métiers et du manque d'ouverture des métiers du cinéma aux personnes en situation de handicap.
Alors, on renverra les auditeurs évidemment vers le film hein, pour le voir en entier, mais en résumant en quelques mots, quel est le premier constat que vous faites, vous avez pu faire avec ce film? Donc, on rappelle le titre, hein, Pas de bras, pas de cinéma, vous pouvez le trouver sur Ciné Plus et l'univers MyCanal.
Ben, il y a plusieurs constats. Donc, comme je disais, d'une part, on s'intéresse à la place du handicap à l'écran. Et un constat est de dire que le cinéma a toujours parlé du handicap, toujours parlé de la différence, pas toujours dans les mêmes termes. C'est vrai qu'au début du cinéma, on était plus dans la la découverte de quelque chose d'un peu sensationnel, d'un peu spectaculaire. On pense que ça, même si le film est très bon par ailleurs et qu'il n'est pas dévalorisant, mais le film Freaks, qui est des années,
des années 30, hein, Todd Browning, oui.
Des années 30, oui, voilà. Bon, c'est un très ancien film qui est intéressant, qui n'est pas méprisant sur les personnes handicapées, mais qui présente quand même des gens très marginaux. Bon, après, à travers l'histoire, le cinéma a énormément quand même évoqué le handicap, plus ou moins bien, avec plus ou moins de talent. On pense à Redman, par exemple, qui a fait évoluer les mentalités sur l'autisme. Donc, le constat, c'est qu'en fait, le cinéma a souvent parlé quand même de la différence.
Oui.
On parle de plus en plus, d'ailleurs.
Bien sûr.
Je pense qu'on est de plus en plus sensible on a un regard quand même un peu plus tolérant, peut-être aujourd'hui. Mm-hmm. Et c'est aussi la culture et c'est aussi le cinéma qui fait que les films de Toledano et Nakache ont œuvré concrètement pour ouvrir l'opinion publique aux questions d'inclusion. Par contre, on remarque aussi quand même que les personnes handicapées sont tenues à l'écart par plein de raisons, c'est pas toujours conscient, mais enfin bon, en France notamment, elles sont tenues à l'écart des métiers de la culture et des métiers du cinéma. Mm-hmm. Donc on fait des films, mais on fait rarement du cinéma avec les personnes handicapées.
Oui,
c'est rare. Il y en a quelques-uns, mais c'est rare.
Alors, c'est vrai que vous en parliez, les mentalités ont tendance, heureusement, à changer. On rappelle que, au moment où on parle, l'Oscar du meilleur film a été attribué à Coda, qui est le remake américain de La famille Bélier, qui parle évidemment de surdité et de langage de sourds. Mais on voit que, par rapport aux intervenants qu'on a eus et aux films qu'on a pu voir, du 8e jour, en passant justement par La famille Bélier, que souvent, comme vous le dites, les comédiens handicapés qui souffrent du handicap sont mis en scène pour ce handicap et par ce handicap et ont du mal, évidemment, à sortir de cette représentation, je dirais, de cette mise en scène assez binaire, je dirais, dans un sens. Vous, en tant que cinéaste et scénariste, comment vous ressentez ce manque d'ouverture à d'autres rôles pour tous ces comédiens ?
Il y a plusieurs façons de répondre. Il y a quelque chose d'un peu urgent. Pour donner du travail aux acteurs et actrices handicapés quand les personnes sont en fauteuil roulant ou quand les personnes sont aveugles. Si elles veulent des rôles, il faut que le scénario prévoit un rôle pour elles. C'est vrai que si ce n'est pas prévu, elles ont du mal à avoir les castings.
Oui, c'est-à-dire que là, le handicap doit être scénarisé, en fait. Voilà, directement, un peu comme ce qu'a fait France 2. Ouais, France 2 avec la série Quint, par exemple, où c'est intégré au scénario.
Il faut intégrer au scénario des personnages handicapés, même si le film n'a pas pour thème le handicap. C'est ça qui est important aussi. C'est qu'il y a des beaux films sur le handicap qui tant mieux, mais il faut aussi prendre en compte et en conscience qu'il y a à peu près 12% des Français qui sont handicapés, plus ou moins, et on ne les retrouve pas, ces personnages-là, on ne les retrouve pas ça à l'écran. Donc, il faut que dans une histoire, une comédie, un drame, quelque chose qui n'a pas forcément rapport avec le handicap, il faut qu'on puisse trouver dans les personnages des personnes en situation de handicap, la petite amie du héros, le père du héros, le directeur de la banque, j'en sais rien, moi, le balayeur, enfin bon, il y a des personnes handicapées dans la société qui existent. On les retrouve aussi dans les histoires.
Je pense que là aussi, ce qui est très intéressant dans ce que vous dites, c'est que le film, il a un scénario, un film, va avoir tendance à capitaliser, alors pas au sens économique du terme, mais va vouloir, en gros, comme le fusil de Tchekhov, ou quand on montre un indice scénaristique, il faut s'en servir dans le film. Ce qui peut être très frustrant et très agaçant pour ces comédiens-là, on parlera évidemment des techniciens après, c'est que si on voit quelque chose, ça doit être intégré à l'histoire. Alors que dans la vie de tous les jours, si quelqu'un qui a votre guichet, par exemple, souffre d'un handicap, on va pas forcément le relever. Et c'est vrai que c'est essentiel d'avoir des rôles où quelqu'un qui a un personnage qui souffre de handicap, ce handicap ne soit pas intégré à l'histoire de manière très basique.
C'est ça, c'est exactement ça. Il faut que ce soit naturel, de la même façon qu'il faut qu'il y ait des hommes, des femmes, des noirs, des blancs, des personnes de tous les âges dans les histoires. Il ne s'agit pas du tout que pour un film donné, on donne un quota au scénariste.
Oui.
On l'oblige à avoir 12% de personnes comme ci, 15% de personnes comme ça. Ça, ce serait ridicule. Mais il faut que globalement, un scénariste se dise que dans ses histoires, il a un tout intérêt à intégrer un petit peu le fait que la société est diverse et variée et qu'on n'est pas tous pareils. Voilà. Donc, petit à petit, les mentalités évoluent. Mais nous, on voudrait sensibiliser, notamment moi, je voudrais sensibiliser les scénaristes, les réalisateurs, les producteurs à leur dire de mettre des personnages handicapés, effectivement, dans les histoires, y compris dans les films qui ne parlent pas du sujet du handicap. Très très bien quand un film parle du handicap et en parle bien, c'est formidable. Quand ça n'en parle pas, il peut très bien y avoir au casting des personnes. Et comme ça permet de donner des rôles à des acteurs avec un handicap visible ou un handicap lourd, ça leur permet, eux, de faire carrière, de rester dans ces métiers, parce qu'actuellement, ils ont tellement peu de travail qu'ils ne peuvent pas vraiment devenir intermittents du spectacle. Ils n'ont pas suffisamment de cachet, ils ne peuvent pas prétendre à ce statut professionnel, donc ils doivent quitter le métier. Donc, il se trouve qu'en fait, c'est un cercle vicieux. même quand un cinéaste veut embaucher des personnes handicapées comme comédiens, ben, il y en a très peu aussi, parce qu'il y a très peu de gens, il y a très peu d'handicapés dans ces métiers-là, parce qu'ils n'arrivent souvent pas à ce travail. Ils sont obligés de quitter cette profession. Donc, si on veut qu'il y ait un peu plus de diversité dans ces métiers, prévoir aussi des rôles pour eux.
Alors justement, vous êtes à la tête, on le disait en début d'entretien, du syndicat des professionnels du cinéma en situation de handicap, parce qu'on parlait de comédiens, évidemment. Vous avez notamment interrogé Pascal Duquesne, Emmanuel Labrie, qui ont été évidemment des têtes d'affiches et des figures de proue de ce combat-là. Mais ça concerne également beaucoup de techniciens auxquels on ne pense pas forcément. Et on sait qu'on est dans une période d'une densité invraisemblable, finalement, avec l'offre de VOD, de DVD en ce moment au niveau du professionnel du cinéma. Il y a certains secteurs du cinéma qui tournent à flux tendu en permanence. Et c'est également une situation donc qui ne concerne pas seulement les comédiens, mais beaucoup de personnes qui sont un peu dans l'ombre. Et dans votre syndicat, vous défendez également les droits de ces personnes-là.
Oui, c'est ça. En fait, le métier du cinéma, c'est pas seulement les interprètes, c'est aussi les artistes, les gens qui sont derrière la caméra. On peut très bien être handicapé et avoir du talent pour photographier, éclairer. Bon voilà. Et c'est vrai qu'il y a des adaptations à faire parfois. C'est vrai qu'une personne handicapée, par exemple, qui est en fauteuil roulant, évidemment, il faut une accessibilité parfaite pour le plateau de tournage. Donc, effectivement, on milite pour qu'il y ait des aides financières, des petits bonus pour les équipes de tournage qui engagent des personnes handicapées ou à besoins spécifiques. Bon, ben, une personne qui pratique la langue des signes, par exemple, elle va avoir besoin d'un traducteur. Donc, ça doit être encouragé et être pris par les organismes qui gèrent, par exemple, le CNC ou les régions.
J'avais une question d'ouverture pour vous, parce que c'est vrai que c'est important vraiment de pouvoir se projeter. Évidemment, on sait qu'aujourd'hui le handicap au cinéma, grâce à l'ouverture d'esprit de beaucoup de fictions, ont tendance maintenant à intégrer le handicap non pas comme représentatif, mais comme un élément, comme un autre finalement de la vie de tous les jours, sans qu'il soit questionné ou intégré au scénario, comme on le disait tout à l'heure. Moi, je voulais tout simplement vous demander comment vous ressentez l'avenir par rapport à ce que vous avez constaté. Est-ce que vous avez déjà vu quelles évolutions vous avez vues en l'espace de 20 à 30 ans dans ce cinéma-là par rapport à ce combat-là? Quels signes positifs vous avez pu constater vous-même?
Il y a globalement, la société est en train de s'ouvrir, mais je dirais depuis quelques années, c'est assez récent. On parle de société inclusive, le monde politique s'est saisi également un petit peu de cette question. Et il y a de plus en plus de mesures, il y a de plus en plus d'actions concrètes quand même qui sont pratiquées par les pouvoirs publics ou par les organismes. Moi, je sais pas, notamment les technologies permettent aussi d'améliorer le quotidien et l'accès à la culture des personnes handicapées. Bon, je pense à des techniques toutes simples, mais l'audiodescription, par exemple, qui se développe. Et puis, encore une fois, voilà, il y a des aides, des subventions attribuées par le ministère de la Culture pour l'accessibilité pour les salles de cinéma. Bon, il y a quand même des choses qui avancent. Mais encore une fois, c'est plus une préoccupation concernant le public. Donc, effectivement, l'accessibilité pour les publics, bon, ça, c'est vrai que c'est une réalité. Ça commence à se faire. Mais là où on est vraiment en retard et où il n'y a pas grand-chose qui change, c'est pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées ou les... Voilà, ça c'est vrai que on est un peu en retard là-dessus pour ouvrir les métiers de la culture aux personnes, notamment les métiers du cinéma, du audiovisuel, du jeu vidéo.
Voilà, faut pas qu'ils se freinent, et en tout cas c'est bien noté. On rappelle donc que vous avez réalisé donc Pas de bras, pas de cinéma, qu'on veut, les abonnés du réseau Canal+ peuvent trouver sur l'espace MyCanal et Ciné+. Hein, il est diffusé jusqu'au 15 juillet donc de cette année. On rappelle également donc vous présidez le syndicat des professionnels du cinéma en situation de handicap, et puis également pour ceux qui sont intéressés également par vos films et votre conception du cinéma, vous avez écrit votre autobiographie, hein, Mon cinéma de A à Z, Jaguarundi édition, qu'on trouve sur toutes les plateformes pour vous justement se le procurer. On sera très ravis évidemment de vous avoir pour parler de cinéma, de handicap et de tout ce qui vous intéresse et nous intéresse à l'avenir dans notre émission. Puis on vous remercie très chaudement de nous avoir accordé cet entretien.
Merci à vous.
Merci beaucoup. Dinner and a night out.
tell you what it's all about. Telling me I gotta read between the lines. Don't you worry, it's plain to see. We rehearsed so many times.
C'est pas votre voiture, c'est celle de mon ami.
Ouais, mon papa me laisse conduire doucement dans l'allée. Je suis un excellent conducteur.
Vous êtes sûr que c'est cette voiture que vous avez conduite?
Il n'y a que 40 km de plus au compteur depuis que je l'ai conduit samedi dernier. Il devrait y avoir plus de 40 km.
Regardez, il y a mon ami qui revient.
On n'est que lundi matin. Je conduis toujours la voiture le samedi, jamais le lundi.
Qui c'est ce type? Qu'est-ce qu'il fait là?
Je sais pas, il est monté dans la voiture.
Oui, bah, il peut descendre.
Je suis un excellent conducteur.
Oui, c'est ça, allez, on se dépêche. Je veux pas qu'il monte dans la voiture. Pourquoi tu l'as laissé monter là-dedans?
Il dit
pour un jouet.
Il dit qu'il a conduit cette voiture.
Papa me laisse conduire tous les samedis dans l'allée. Avant, les sièges, ils étaient en cuir marron, ils sont en rouge. Maintenant, c'est pas beau.
C'est vrai, c'était marron, non? Vous connaissez cette voiture?
Je connais cette voiture.
Vous la connaissez d'où, cette voiture?
Je la connais, c'est sûr. Buick Roadmaster 1949, 8 cylindres à Brabham en tête. Elle n'a été fabriquée qu'en 8000 exemplaires. Papa me la laisse conduire doucement dans l'allée, mais pas le lundi, ça c'est sûr, pas le lundi.
Votre père, c'est qui?
Sanford Babbitt.
Qui? Sanford Babbitt?
1241 avenue des Platanes, Cincinnati, Ohio.
C'est mon adresse, mais qu'est-ce que c'est que ce type? Hé, votre mère, qui c'est?
Eleanor Babbitt.
Eleanor?
Elle est morte le 5 janvier 1965 après une courte
mère d'aide
maladie.
Oh, oh. Hé, hey, attendez une seconde, où vous allez?
Dans 13 minutes, il y a le juge Wapner, le tribunal populaire.
Attendez un peu, j'ai une question à vous poser.
Vous écoutez toujours Graffiti Cinéma, c'est notre deuxième émission sur le handicap et le cinéma. Bonsoir Juliette.
Bonsoir Romary.
Et dans cette deuxième partie, en complément et en conclusion, en grande ouverture à cette grande thématique, eh bien, on va parler de l'autisme. La journée de sensibilisation de l'autisme, c'était le 2 avril dernier. Donc cette émission, elle est hors actu, dans le sens où on ne voulait pas forcément le lier à une journée spéciale en particulier. On en parle comme un sujet comme tous les autres, et c'est tout ce qui ressortait de
ce que nos invités évoquaient. Il ne faut pas en faire un événement, il faut en parler comme une normalité, une autre forme de normalité. Et l'autisme, c'est important parce que ça a été souvent au cinéma, tu vas nous en parler avec ta filmo, Juliette, on va rebondir dessus, vu comme une marge incroyable, quelque chose qui était complètement extravagant, souvent filmé évidemment de différentes façons. Et cette filmographie, elle va être assez intéressante dans le sens où on va vraiment percevoir l'évolution du regard sur l'autisme, hein, qui est vraiment que bon, il y a énormément de variétés d'autisme. Hein, l'objectif de l'émission, c'est pas d'en faire un parcours complet, mais c'est de voir comment le cinéma s'en est emparé et parfois de la styliser pour les besoins d'un scénario. Et on va directement commencer avec peut-être le film qui vient en premier à l'esprit quand on pense autisme et cinéma, c'est évidemment L'homme de la pluie.
Rain Man
pour les anglophiles. Mais Rain Man, ce film-là, donc on est avec Barry Levinson, on est en
88.
On est en 88, ça commence par Aiko Aiko, et on est avec donc Tom Cruise qui cherche déjà les rôles à Oscar, qu'il va évidemment avoir dans sa carrière, mais avec un rôle plus humain dans le sens où il va vraiment évoluer. Alors, c'est un des premiers rôles, vraiment, on le voit évoluer d'un point A où il va être effectivement quelqu'un d'assez fréquentable, parce qu'on rappelle le pitch, hein, c'est quelqu'un qui va devoir subir son frère autiste plus âgé que lui pour essayer de récupérer l'héritage de ses parents. Donc c'est quelqu'un d'absolument insupportable, le Golden Boy réganien d'entrée, qui va s'humaniser au contact de son grand frère. C'est tout l'intérêt de ce film-là, et évidemment de le percevoir encore aujourd'hui, c'est important, quoi.
Oui, alors déjà, tu as raison de saluer le travail de Tom Cruise, parce que dans ce film, il a quand même un très très beau rôle, et du coup, qui a été un petit peu sous-coté, parce qu'à côté, il avait quelqu'un d'encore plus magnifique, on va dire.
On ne rappelle plus l'acteur, comment il s'appelle?
Dustin Hoffman. C'est parce qu'il est petit.
Ouais. C'est un de mes acteurs préférés, évidemment, c'est pour la blague, Dustin Hoffman, qui avait déjà, évidemment, 150 fois percé l'écran, mais... Là, il s'était vraiment sorti de sa zone de confort et est allé très très loin. Et c'est une forme d'autisme très particulière, hein, qu'il met en scène, Dustin Hoffman.
Oui, alors déjà, par contre, je voulais quand même dire que tu avais bien fait de rappeler le pitch du film, parce que si on écoute la musique, on a un peu l'impression qu'on est dans un road movie en Amérique du Sud à la recherche de Jacques Vabre. C'est
déstabilisant.
C'est un peu déstabilisant. Moi, je crois que c'est le film où j'ai trouvé la musique la plus éloignée du contenu.
Oui, c'est très années 80-90, forcément, c'est des grands nappes, un peu l'Evangelis, là, au moment où...
Ouais, enfin, flûte de pan à fond...
Ouais, c'est surprenant, c'est vrai que la bande-son est très planante, dans un sens, mais peut-être qu'elle évoque de manière lointaine le monde parallèle dans lequel Dustin Hoffman, enfin, son personnage, est tout le temps inclus, finalement.
Bah, tu la défends très bien, cette musique. Non, c'est une jolie musique, mais je trouve que, elle est trop dissociée du film, quoi. On a l'impression qu'on nous rajoute quelque chose qui n'a rien à faire, là, mais...
Ouais, quasiment dans Miami Vice, hein, de mémoire, hein. C'est ces grandes nappes un peu électro.
Moi, je sais pas, ça fait plus, je te dis, pub de café.
Entre Miami Vice et La Chèvre.
Voilà, La Chèvre, c'est pas mal. Ouais.
On est bien, je pense qu'on est bien, parce que c'est vrai que...
Mais c'est un duo.
C'est un duo, c'est un buddy movie, et La Chèvre me fait penser vraiment à ces rôles de buddy movie, où vous avez le costaud, le plus faible qui va, par ses faiblesses, découvrir une immense force. La Chèvre, évidemment, ne parle pas d'autisme, mais on reste dans le côté de buddy movie, le Rain Man, où l'homme de la pluie, on va voir qu'il est beaucoup plus costaud, en fait, que son grand frère, et qu'il sait et faire énormément
de choses. C'est le grand frère, l'homme de la pluie.
L'homme de la pluie, Dustin Hoffman, c'est...
C'est le grand frère.
C'est le grand frère, oui, bien sûr.
C'est le grand frère.
Oui, j'ai hésité, je crois.
T'as un petit peu dit l'inverse, mais c'est pas grave.
Donc, Dustin Hoffman, ce grand frère qui va s'avérer être beaucoup plus profond, évidemment, que ce que son jeune frère, Tom Cruise, va vouloir le percevoir au début. Hein. Il va, en gros, le percevoir comme un gamin de 5 ans dès le début.
En fait, en 1988, on savait rien de l'autisme dans le grand public. Alors, c'est quelque chose, du coup, qu'on peut à la fois... on peut féliciter Rain Man là-dessus et on peut lui reprocher, parce que, donc, il met en lumière l'autisme. Par contre, il met en lumière quelque chose de très spécifique dans l'autisme, pas du tout représentatif et très stéréotypé, malheureusement. Parce que là, on va s'intéresser au syndrome du savant.
Mademoiselle, je crois qu'il a besoin de cure-dents. Vous pourriez lui en apporter quelques-uns, ce serait gentil. C'est un procès que vous voulez? Il faut y réfléchir. Docteur Brunner, réfléchissez. Ou alors, on peut s'arranger à la mienne.
Je ne pense pas que vous ayez une idée de la gravité de l'état.
Là, des cure-dents. Des cure-dents. Il a besoin de cure-dents. On peut les lui apporter?
Oui.
Et je ne pense pas que nous puissions convenir d'un arrangement quelconque.
Puisque c'est ça, rendez-vous au tribunal.
Une addition. Excusez-moi, il lui en fallait un. 82, 82, 82. 82 quoi, Ray? Tout doit combien?
Cure-dents.
Il y en a plus de 82 par terre.
Il y en a 200.
46.
Gardez la monnaie. Mademoiselle, combien il y a de cure-dents dans la boîte?
250.
Pas très loin. Allez, viens, on y va.
246.
Ouais.
Il en reste 4 dans la boîte.
D'ailleurs, on ne dit pas autisme, on dit trouble du spectre autistique parce que ça regroupe tout un tas d'atteintes, on va dire. C'est très délicat d'en parler.
C'est clair parce que c'est vrai que...
C'est voilà, une multitude de symptômes, enfin symptômes ou de façons d'être. C'est...
Le film a 34 ans, donc on imagine évidemment que quand il est réalisé, les recherches dans le domaine n'avaient pas aussi évidemment permis de découvrir de nouveaux domaines qu'aujourd'hui. Il y avait en gros une forme d'autisme, c'était quelqu'un qui vit dans son monde et qui a le syndrome du savant. Donc on s'est aperçu avec Rain Man que avoir un autiste à la maison, c'est très pratique pour compter les allumettes par terre.
Voilà, 246.
Ce qui était complètement dingue parce que c'est les scènes qui vont le plus marquer.
Oui.
Forcément, bam, des allumettes qui tombent, 246, le mec les compte. C'est quasiment comique, mais c'est une scène qui, très, très cinématographique, va vraiment choquer le spectateur. C'est pour ça que je me permets d'en rigoler parce que c'est exactement le choc qu'on cherche à représenter quand Dustin Hoffman, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus que quelqu'un qui est dans la marge et qui est dans un monde où il ne peut pas interagir avec les autres. On va constater que par ces petites scènes et cette immense profondeur, Iva était un véritable ordinateur sur pattes qui cherche à humaniser et s'humaniser au contact des autres. Et ces échanges-là sont faits parfois de manière un peu maladroite, parce qu'évidemment, le film, on le disait, a plus de 30 ans, mais pour une porte d'entrée hollywoodienne, ils étaient quand même allés très très loin, quoi. Ils s'étaient en quelque sorte mis en danger avec un personnage qui n'était pas forcément facile à cerner.
Bah oui, d'ailleurs, ça a été un gros travail pour Dustin Hoffman, ce rôle, et il a beaucoup travaillé, mais comme d'habitude, j'ai envie de dire, pour cet acteur. Donc déjà, il a rencontré plusieurs personnes autistes, notamment Kim Peek, qui est vraiment le personnage, enfin pardon, la personne dont le personnage de Raymond Babbitt est inspiré. C'était un homme qui avait une mémoire qu'on appelle absolue, hein, un vrai ordinateur. C'était Google, en fait, le gars, c'était Google.
Google en mieux.
Il lisait quelque chose, il retenait. Et alors, il y a un truc, ça m'a complètement halluciné. Il pouvait lire les deux pages d'un livre simultanément. Il voyait la page de gauche avec son champ visuel gauche et la page de droite avec son champ visuel droit. Et il lisait ça à la vitesse de 10 secondes par page.
Ouais, donc il lit plus vite du Dostoïevski que moi, mon téléphone.
Voilà, c'est ça. Et cet homme, Kim Peek, donc c'est vraiment l'homme qui a inspiré le réalisateur et le producteur qui tenait vraiment beaucoup à parler de ça, a dit « Vous n'avez pas besoin d'être handicapé pour être différent, tout le monde est différent. Mm-hmm. » Et je pense que tout le long là, de notre petit sujet, on va se rendre compte qu'effectivement, au final, la différence, elle est où et voilà, où elle commence, où elle s'arrête.
Oui, c'est vrai qu'on était encore dans l'idée dans les années 80, mais manière très bienveillante, très humaniste, hein, de dire, bon bah voilà, ces gens-là, il faut les considérer, ils sont pas malades, ils sont pas dingues. Aujourd'hui, 30 ans après, on serait presque au stade de se dire, il n'y a pas de différence en soi. Enfin, il y a des différences, pardon, mais il n'y a pas de gens normaux et de gens anormaux. Il y a 150 millions de façons d'être humain et on n'a pas de qualitatif ou de choses à opposer. Il n'y a pas une meilleure façon d'être humain que l'autre. On serait plutôt dans cet état d'esprit aujourd'hui.
Non, ça c'est ce qu'on pense nous parce qu'on est bienveillants, mais n'empêche que...
On est méchants.
Non, non, mais on voit bien quand même dans notre société que oui. Malheureusement, on les met quand même toujours à part.
Oui, tout à fait.
Y a toujours... et la différence, c'est pas qu'au niveau du handicap, hein, ça va au niveau de la sexualité, ça va...
Alex Udick nous en parlait sur les tournages dans l'émission précédente. C'est parfois des contraintes techniques que les réalisateurs n'ont pas, quoi. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est en fauteuil, il y en a un autre qui est debout, rien qu'à filmer, c'est un casse-tête qu'on ne va pas avoir avec des acteurs valides d'un niveau moteur. Et ces défis-là, beaucoup de cinéastes, en fait, ils n'ont pas relevé parce qu'ils n'en avaient absolument pas conscience, ils ne s'y confrontaient pas. Et Rayman s'y confronte justement parce qu'il y a cette mise en scène et un comédien qui a une méthode d'acteur studio très poussée en rencontrant des autistes et en intégrant ça. Sinon, ça aurait été très compliqué de le mettre en scène directement avec des personnes qui le vivaient, évidemment. On imagine
oui, bah, en fait, c'est marrant parce qu'il y a souvent une polémique, justement, quand il y a des films ou des séries qui parlent avec d'un personnage autiste. Il y a souvent la polémique de « il faudrait que ce soit un autiste qui joue le rôle ». Et alors, avec l'émission, bien sûr, j'ai fait des petites recherches et ça me paraît... Enfin, je comprends, bien sûr, cette volonté, mais en même temps, c'est des personnes qui ont quand même des problèmes de communication, enfin qui ont des problèmes de sensibilité auditive, visuelle et tout ça. Et le stress d'un tournage me paraît peu compatible, même si, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup, beaucoup de niveaux d'autisme, mais il faut vraiment avoir une volonté. Donc, je peux comprendre qu'il n'y ait pas beaucoup forcément d'acteurs autistes et qui, en plus, n'ont pas forcément envie d'amplifier des symptômes qu'ils n'ont pas, quoi, par exemple.
Tout à fait, et on en parlera dans la fin de ce sujet, parce que c'est vrai que parfois ça arrivait de prendre des acteurs qui avaient, par rapport à leur personnage,
oui,
un trouble, mais beaucoup plus atténué pour eux, qu'ils avaient tendance à exagérer pour le tournage, pour les besoins du scénario. On peut par exemple citer là-dessus l'acteur R.J. Might, qui jouait le fils de Walter White dans la série Breaking Bad, qui lui souffrait, alors son personnage, tout comme lui, souffrait d'une infirmité motrice cérébrale. Il l'avait complètement accentué pour le tournage d'ailleurs dans la série, ce qui était fantastique, c'est que Breaking Bad raconte l'histoire d'un papa qui devient dealer pour assumer les besoins de sa famille en termes de santé et puis les études de ses deux enfants. C'est évidemment une critique totale du système de santé américain, parce qu'on s'aperçoit qu'il faut devenir dealer pour arriver à mettre ses enfants à l'université. Mais il n'y a qu'un épisode finalement où le sujet de l'infirmité de son enfant est vraiment mis en avant, où des personnes ont se moqué d'eux dans un magasin. Il y a un épisode où vraiment le handicap de son enfant est mis en avant, et après le reste de la série n'y fait pas allusion. C'est une paternité, j'ai envie de dire évidemment, toute classique, pour laquelle on va pas relever cette chose-là, ce fait-là, pardon. Et ce qui est très important dans la lecture qu'on peut faire au niveau du script, et dont on parlait dans la première partie, c'est que c'est un élément parmi tant d'autres, mais qu'on va pas forcément mettre en avant, parce que c'est pas un événement, c'est un élément. Un élément de scénario, comme machin est chauve ou machin est blond.
Oui, c'est tout, alors que dans Rain Man, par contre, là,
Rain Man, c'est le pilier du scénario, et on voit bien ce qui nous apparaîtrait peut-être aujourd'hui comme une maladresse si on faisait Rain Man aujourd'hui, c'est que l'autiste est le pilier du scénario. Alors que il y a encore 30 ans, ça fait bizarre de dire que c'était il y a 30 ans Rain Man,
ouais.
Il y a encore 30 ans, c'était indispensable. Évidemment, on n'avait pas le choix.
Mais il y a quand même pas mal, justement, dans les différences, donc que ce soit les handicaps et tout ça, de films qui sont faits un peu sur la même base dans ce qui est un peu road movie ou un peu apparenté, comme par exemple Intouchable. On a l'impression qu'il y a souvent un duo et que la personne qui est, entre beaucoup de guillemets, anormale, pour le grand public,
oui,
on va dire,
oui, bien sûr,
et celui finalement qui permet de rendre meilleure la personne qui est à côté de lui. Donc on le voit dans Intouchable, on va retenir beaucoup plus Omar Sy, enfin le personnage d'Omar Sy, cet éducateur, que le personnage de
François Cluzet.
Là dans Rain Man, finalement la personne qui s'élève, c'est le petit frère qui va découvrir ça, qui, comme tu disais, c'est un petit peu une raclure qui finit par
c'était chaud pour lui d'être encore plus désagréable que dans les scènes d'intro. De toute façon, oui, il le joue très très bien, Tom Cruise, le Golden Boy, il le fait très très bien. Et de toute façon, il pouvait aller que dans un sens, c'était lui-même s'humaniser au contact de son grand frère, et c'est tout l'intérêt de ce film là évidemment. Mais cette trame classique, on va voir qu'elle, on va en parler avec d'autres séries que tu nous as sélectionnées, elle a tendance à évidemment être réinventée.
Voilà, elle évolue beaucoup.
A évolué dans un sens plutôt moderne, rien qu'au niveau du récit, de la mise en scène, et ce qui va être tout à fait intéressant. Sur Rain Man, tu avais peut-être d'autres choses éventuellement à nous dire avant de passer à la fiction.
Ben, en fait, on peut dire déjà que Dustin Hoffman, il a quand même épuisé beaucoup de réalisateurs avant que Barry Levinson se lance. Il y a eu quand même Martin Brest, il y a eu Steven Spielberg, Sidney Pollack.
Il a fait
il a fait peur à tout le monde. Et puis au début du tournage, il a douté et il a dit quand même à Levinson de prendre Richard Dreyfuss parce que ça allait être la pire œuvre de sa vie. Mais bon, finalement, il est resté et il a bien fait, je crois.
Oui,
il a eu son petit Oscar.
Ça peut aider dans une carrière. En général, ça fait hyper bien sur un CV, c'est plutôt stylé, il faut le dire. Et ce film qui est devenu, alors cul, c'est un mot un peu valise, mais en tout cas un film vraiment repère pour oui, ces sujets, pour le
premier film qui traite, qui met en avant le handicap, le spectre autistique, et puis ben qui le fait qui présente cette personne de façon humaine aussi, parce que juste comme on disait, des fois on les présente un peu comme voilà anormal ou totalement à part ou quoi,
et terrifiante. Hein, j'ai cité dans l'introduction de la première émission Freaks, hein, de Todd Browning en 1932, qui représente justement des personnes qui souffrent de handicap moteur ou de nanisme, et qui avait terrifié les Américains dans les années 30, alors que Todd Browning était spécialiste de ce type de représentation. Il y a toujours eu énormément d'ambiguïté sur pourquoi il a fait ça et comment il l'a fait, mais ce film est devenu culte, lui, pour le coup, parce que c'était un des premiers à représenter ses corps de cette façon-là, de manière frontale au cinéma, et c'était à l'époque des films considérés comme horribles. Donc là, on voit en l'espace de 50 ans déjà, pour arriver à Rinman, l'immense pas de géant qu'on a fait dans cette représentation-là, et puis on va continuer à faire des pas de géant, parce que là, tu vas nous parler d'une série qu'on peut retrouver sur Netflix, alors que je découvre, qui s'appelle Atypical.
Oh, what a great accent.
Ouais, on va faire Atypical.
Atypical. En fait, c'est bien pour faire la différence entre, les gens ont tendance à utiliser anormal, normal, là, ce sera neurotypique, neuroatypique.
C'est trop long.
Oui, mais c'est plus parlant, on va dire. Ouais. Et donc là, c'est un petit peu le récit initiatique de l'évolution d'un adolescent autiste. Et alors, moi, cette série, c'est en 4 saisons avec, alors, on va essayer la prononciation, Jennifer Jason Leigh.
Ouais.
Et Michael Rapaport.
Michael Rapaport, la babale, un de mes acteurs préférés. Alors, bon, Jennifer Jason Leigh, on la connaît, mais Michael Rapaport, c'est un des sidekicks dans les buddy movies des années 90.
Tout le monde connaît sa tête.
Alors, vous tapez Michael Rapaport et vous voyez sa tête, vous dites « Ah, lui, je l'ai vu dans tous les films d'action des années 90 où il jouait le bon pote, en général. Oui. » Et depuis, de mémoire, il a arrêté ses carrières de comédien. Maintenant, il fait des podcasts en basket.
D'accord. Bah là, la série, ça date de 2017-2021. Donc,
il a repris, il continue
de temps repris. Peut-être que le sujet l'intéressait. Voilà. C'est produit par Jennifer. Donc peut-être que c'est elle qui est allée le chercher. J'ai pas été
Jenny est à la production, sachant qu'elle a souvent joué aussi des personnages, alors pas autistes forcément, mais souvent des personnages de femmes vraiment très très marginales, très anxiogènes. Dans JF Partage l'appartement, déjà elle joue une sociopathe qui est particulièrement un peu gonflante, voire un petit peu terrifiante, tue le conjoint de sa colocataire, ce qui est pas des pratiques très acceptables en société.
C'est pas super.
Et là, elle reprend donc elle produit, elle mène cette série, donc qui va nous parler de neuroatypique. Alors
voilà, ça nous parle de cet adolescent Sam. Et alors moi, ça m'a beaucoup touchée parce que justement, en fait, ça nous renvoie à ce qu'est la normalité finalement.
Oui, parce que c'est toujours cette question-là qui est essentielle et qui peut être déstabilisante parfois pour nous-mêmes.
Et ce qui est très appréciable dans la série, c'est que on se moque jamais de lui. Et donc, parce que c'est ça aussi le risque, quand par exemple il va prendre toutes les expressions au pied de la lettre, il y a pas d'interprétation, il y a pas de métaphore, pour lui ça n'existe pas.
Donc, faire cuire un œuf.
Voilà, pour lui, et il va aller se faire cuire un œuf. Il faut se jeter à l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, donc forcément ça donne des situations un peu drôles, mais il y a du coup certaines expressions ou façons de faire des neurotypiques qui, mise en lumière par cette série, nous paraissent totalement ridicules. Donc, il a besoin de petites listes pour s'aider à s'améliorer. Donc, par exemple, pour draguer. Donc, il va demander à son ami qui est neurotypique. Il lui fait une liste. Et bon, une liste pour lui, c'est 3 critères. Donc, il a 3 critères. Et vas-y avec les 3 critères. Et il va regarder des tutos YouTube. Donc, forcément, ça capote. Et c'est ça qui est rigolo parce que on l'a tous fait des fois regarder des tutos sur des trucs un peu comme ça, un peu marginaux. Et voilà, du coup, voilà, la normalité est vraiment mise en avant. Et puis, on se rend bien compte aussi que c'est certes, il a ses problèmes, mais déjà, il arrive très bien à s'insérer. Ce qui est plaisant aussi, c'est que pour une fois, c'est pas un autiste qui brille particulièrement dans les mathématiques ou dans les sciences.
Oui, ça c'est un des gros clichés voilà. du cinéma hollywoodien. C'est, on peut citer la série, bon, qui était elle beaucoup plus série pop, je dirais, certainement en dessous de Atypical, qui était Numbers.
Oui.
Il y avait là pour le coup un autiste qui à chaque fois calculait de manière très prononcée quand on lui donnait un postulat de départ d'une enquête policière, et vous retrouvez le méchant en faisant 3 x 7 quoi. Évidemment, je caricature. Sinon, la police, ça voudrait dire qu'elle n'est pas balèze en maths. Mais c'est devenu un cliché scénaristique absolu. Et évidemment,
oui.
Rainman a fait les frais. Hein.
Oui.
On subit les frais de Rainman, qui est un très grand film, hein, au demeurant, mais qui a lancé cette figure de l'autiste égal gros geek, gros nerd, enfermé chez lui, tout le temps en train de jouer et en train de monter des PC. Quoi.
Et d'aller d'avant en arrière.
Oui. Je ressemble à ça, c'est clairement. Donc.
I know you feel the way I change, but you can't change the way I feel. Sometimes I'm a stranger to you, one of a kind. Then I think some way you'll make it. You don't know how to take it. Sometimes you're a stranger to me, one of a kind. There were times of lots of laughter, and you felt you understood. Silence holds secrets when I answer, but don't answer. You did not see me well enough to recognize the signs. You didn't want to notice. Oh no. I did not see.
Sometimes you're a stranger to me. Sometimes, baby, all the time. You never really knew my mind. I never really knew your mind.
Non, et très, très récemment aussi, toujours dans les séries, il y a The Good Doctor. Donc là, oui. C'est pas les mathématiques, mais c'est la médecine.
Alors là, on la voit sur TF1, donc évidemment, oui, tous nos auditeurs la connaissent.
Très gros succès, et donc très sérieux. Enfin, moi, je l'ai vu. J'ai commencé à la regarder un petit peu après Atypical, justement. Et alors, donc là, on dit bien qu'il a le syndrome du savant, mais du coup, pareil, encore une fois, c'est très stéréotypé. Et ça fait moins humain. Et des fois, en fait, on rigole de lui. Enfin, moi, je trouve que des fois, on rigole de lui. C'est quelque chose que je reprochais justement dans Atypical, à la fin de la quatrième saison, on commençait justement à vouloir en rajouter un petit peu trop sur les différences et tout. Donc il y a un personnage qui se découvre bisexuel. Enfin voilà, on va explorer d'autres différences et on perd de vue un peu notre personnage, ce qui est dommage. Oui, on dirait que c'est un prétexte à pousser. Voilà, c'est...
La différence devient le sujet, alors qu'au départ, ce qui fait la force de cette série-là, c'est que justement la différence ne l'est pas.
Voilà.
On va présenter la différence comme une normalité et c'est tout ce que demandent en fait nos invités.
C'est ça,
tout
voilà.
Ce que demandent, tout ce qu'ils souhaite en gros dans les fictions, ce qu'il aura souvent plus, c'est que la différence est une autre normalité.
C'est
en
ça.
En quelque sorte, et qu'on n'en fait pas un sujet. Et on se retrouve là-dedans, même sans forcément voir la série, on retrouve en gros des thématiques qui font les scénarios les plus forts dans un sens, parce que cette autre normalité va questionner la vôtre.
Voilà.
Et Rayman, dans un sens, si on le revoit aujourd'hui, on pourrait le revoir sous ce prisme-là et se dire que, dans un sens...
Oui, il y a de l'acceptation dans Rain Man.
Oui, parce que le nombre de fois où j'ai essayé de compter des cure-dents que je faisais tant de faire, c'est désarmant, je n'y arrive
tu
pas.
Tu sais que la scène du P dans la cabine téléphonique, elle n'était pas écrite. Et c'est Dustin Hoffman qui a vraiment pété et ils ont joué le truc. Et il tenait la porte fermée pour déstabiliser Tom Cruise et ils l'ont gardé du coup.
Acteur incroyable. Il sait tout faire, hein, Dustin Hoffman, sur les
tournages. Donc on ralentit. On voit un petit sourire, mais c'est vraiment très rigolo. Et ce qui est intéressant aussi, c'est les personnes neurotypiques, parce que on se rend compte que voilà, ce qui nous arrive dans la vie, on le vit pas tous de la même façon. Un même événement qui arrive à deux personnes, ça va pas être géré de la même façon. Et c'est pareil pour les gens, les personnes autistes. Il y a peut-être des choses aussi intéressantes sur comment sont aidés les autistes. Donc là, ça se passe aux États-Unis. Donc, c'est pas les mêmes structures que nous. Là, il est intégré dans un lycée normal. Enfin, il y a le père, quand il découvre que leur enfant est autiste, et ben, il fait un break de un mois parce que, il a du mal à comprendre la situation. La mère, elle va tromper à un moment son mari parce qu'elle ne se sent plus femme. Enfin, voilà, au final, c'est très proche de la réalité. Et moi, je pense que c'est ça qui m'a touchée. Après, je suis peut-être un petit peu fleur bleue, voilà. Même si j'aime bien les tueurs en série aussi, hein. Mais non,
c'est un
autre sujet. Voilà. Moi, j'ai pleuré. On est content. On rit aussi.
Oui, c'est ça qui est important. C'est voilà, il n'y a pas une seule façon de voir qu'un seul bout de la lorgnette. En tout cas, on le voit de différentes façons ce sujet-là. Évidemment. Alors, je vois que tu as une dernière fiche à nous proposer. Qu'est-ce que tu as pour en conclusion avec le peu de batterie qui reste à mon enregistreur?
D'accord, on va se dépêcher. Et en fait, je voulais juste évoquer la série Touch. Donc, c'est une série de 2012-2013. Alors, moi, j'ai bien aimé la première saison, mais après, c'était un petit peu... Donc, c'est avec une série avec Kiefer Sutherland. C'était son fils qui était... autiste. La maman est morte dans les attentats du 11 septembre et le père se retrouve un petit peu dépassé parce qu'il refuse complètement d'être touché. C'est pour ça que la série s'appelle Touch.
D'accord, oui. En plus, Kiefer Sutherland qui se réinvente parce que là, on voit que c'est l'époque où il sort de 24 heures chrono, une série bien droitière, bien conservatrice aux États-Unis. Une très bonne série d'action au passage, hein, mais qui était très, 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 évidemment, à l'opposé de ce qu'on peut voir là, quoi, qui est très humain, où on ne va pas l'héroïser, le super-héroïser. Donc c'est très intéressant de le relever parce que là franchement je la connaissais absolument pas cette série là, je savais pas que Kiefer Sutherland.
Et pourtant il y a aussi Danny Glover dedans, il y a Saïd Tagmaoui, pas dans la première saison mais dans la troisième je crois.
Joli casting.
Voilà, il y a aussi Maria Bello à partir de la deuxième saison.
Oui, qu'on a vu dans l'urgence aussi notamment.
Voilà, et donc là ce que j'aime bien dans cette série c'est parce que alors c'est complètement différent, c'est-à-dire que l'autiste est un être supérieur. Il est en lien direct avec le cosmos, on va dire. Il peut prédire. Alors, il ne va pas parler, ce petit jeune homme. Il a un cahier sur lequel il va écrire des chiffres. Ces chiffres vont mener son père à faire des actions, à retrouver des éléments. Et tout ça, à chaque épisode, à la fin, tout s'imbrique. Et il se passe, et tous les éléments sont liés et tout ça. Et
un peu prédiction, hein, Nicolas Cage, peu, son enfant qui prédit.
Voilà,
l'avenir.
Un peu dans ce genre-là, un peu suite de Fibonacci. Voilà. Et du coup, c'était intéressant cette façon aussi de voir cet aspect un peu comme X-Men où la mutation serait oui. Un plus.
Ouais,
si tu veux des petits fun facts entre guillemets.
Alors des fun facts, on adore. On va les
alors
garder.
Fun, je sais pas si c'est vraiment fun. Chacun ses goûts, mais par exemple, il y a plusieurs acteurs qui sont autistes Asperger. Il y a par exemple Dan Aykroyd.
Ah oui, d'accord.
Et apparemment, ce serait à son obsession des fantômes qui serait liée à son Asperger que l'on doit l'idée de Ghostbusters.
D'accord.
Vous marchez à la drogue ou au dopant, à l'alcool?
Anthony Hopkins aussi.
Anthony Hopkins, d'accord.
Et lui, alors, il dit que ça a eu un grand impact quand même sur ses interactions sociales.
Ah bah oui.
Voilà, il est souvent seul. Il aime bien les gens, mais...
Il fait souvent des tueurs en série aussi.
Aussi.
Ah, il n'en a fait qu'un, je suis vache. Mais Anthony Hopkins, du coup, ça remet en perspective certains de ses rôles et ses choix de rôle. Je ne savais pas du tout. Pareil, je le découvre. Peut-être que vous le découvrez en écoutant.
Et puis après, il y a aussi Daryl Hannah.
D'accord, oui. Voilà, alors qu'on voit dans Blade Runner. Là,
dans Blade Runner.
La blonde qui saute partout.
Kill Bill aussi.
Kill Bill, la blonde qui perd ses yeux.
Après, bon, pas une grande actrice, mais elle est très connue quand même, c'est Courtney Love. Qui, elle, dit qu'elle a eu des longues périodes d'introspection pour essayer de comprendre aussi ce qu'elle faisait dans le monde. Et après, quelqu'un qui n'a rien du tout à voir avec le cinéma, mais je trouvais ça assez rigolo, c'est, je ne sais pas du tout si je vais bien le prononcer, Satoshi Tajiri, le créateur des Pokémon.
Ah non, voilà. Je ne savais pas. Mais Satoshi Tajiri a créé les Pokémon. Bah, on en rend
et
moins.
Et donc, il est Asperger.
D'accord.
Donc, c'est rigolo d'avoir fait créer tout un univers comme ça avec au départ 150 personnages, animaux, je ne sais pas comment dire.
Et surtout que les Pokémon font sortir les gens de chez eux. Hein, surtout quand on a Pokémon Go et qu'il y a des gens qui viennent chercher des Pokémon dans votre pelouse. c'est dingue de se dire que c'est quelqu'un qui au départ avait peut-être du mal à sourire sur le monde qui a créé ça.
Et puis après, il y a des personnes, on n'est pas vraiment sûr. Mais il y a Bill Gates, Woody Allen, Albert Einstein, Bob Dylan, Van Gogh, Mark Zuckerberg.
Terminator.
Elon Musk aussi.
Elon Musk, alors il en a même souvent parlé, donc, je pense, de mémoire.
Ça fait un paquet de un paquet de personnes.
Et beaucoup
Andy Warhol aussi.
Beaucoup de biopics à faire aussi.
Oui.
Pour revenir sur le cinéma, beaucoup de biopics qui peuvent peut-être réécrire, en tout cas refaire, arriver à faire oublier quelques défauts d'un homme d'exception qu'on peut citer en biopic sur l'autisme avec.
Alors il n'est pas atteint d'autisme, mais il est schizophrène.
Il est schizophrène dans l'homme d'exception.
Schizophrène paranoïque, je crois.
Et c'est vrai que souvent, j'imagine qu'il est autiste dans ce film-là parce qu'il est vraiment mis en scène comme quelqu'un qui refuse le monde, qui est tout le temps filmé derrière la fenêtre. Alors, il a des qualités, ce film-là. D'ailleurs, Russell Crowe obtient l'Oscar du meilleur acteur pour ce film-là. Mais c'est vrai que, pour le coup, on voit qu'il y a encore une mise en scène qui était très cliché dans ce sens-là. C'est pour ça que j'en parle.
Alors moi, j'ai pas beaucoup aimé ce film, en fait.
Bah, c'était ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'on sentait qu'il n'y avait pas eu 30 ans depuis Rain Man quand on voit un homme d'exception, qu'on revenait à des vieilles casseroles dans la représentation du mental qui est déréglé, qu'on a du mal à maîtriser. Quoi. Et c'était tout le désintérêt, en tout cas, qui m'a inspiré ce film et qu'on peut remettre en perspective aujourd'hui avec toutes les fictions que tu nous as apportées.
Voilà, donc maintenant, il faudrait que notre société évolue encore pour qu'on accepte plus la différence, peut-être.
La différence.
Non, mais en fait, on voit bien qu'ils ont des problèmes de sociabilité du fait de leur trouble, mais du coup, après avoir vu tout ça, je me demande si nous, on n'en a pas autant.
On peut en finir sur un dernier, hein, qui est sociopathe, qui est le Joker. L'évolution du Joker, on le disait dans l'émission, au départ, il fallait mettre dans un bain d'acide pour qu'il devienne dingue, et après, il fallait mettre dans la société. On espère en tout cas que ça continuera là-dessus avec des films qui nous ouvriront l'esprit, et puis surtout des comédiens, et puis tout le monde, hein, quels que soient les horizons, s'ouvre leur esprit sur cette façon de représenter, d'écrire les marges et le handicap au cinéma comme une normalité, non pas comme une différence, hein, une autre forme de normalité. C'est tout l'intérêt et tout le mal qu'on souhaite dans les prochaines saisons. Pour nous, on en reviendra dessus évidemment dès la saison prochaine, mais on s'aperçoit en tout cas qu'il y aura énormément de filmographie pour retravailler cela. Merci beaucoup Juliette de nous avoir
apporté. Merci à toi.
Ça fera 5 euros.
Encore
Les auditeurs sont témoins, je suis un vrai escroc.
Bonjour, je m'appelle Laurent, je suis éducateur spécialisé auprès d'enfants avec troubles autistiques et je vais vous parler aujourd'hui du projet Des Images pour Parler. Des Images pour Parler, c'est un projet éducatif qui a pour but de mettre à disposition gratuitement des ressources éducatives pour aider le développement de la communication chez l'enfant. Le projet se présentera sous la forme d'un site internet où l'on trouvera des outils et des guides vidéo pour travailler différemment le développement de la communication et l'émergence du langage chez l'enfant.
La chronique pas tout à fait dans le thème de Mathieu prolonge directement les discussions que nous avons eues pendant notre émission. Et cette semaine, Mathieu, tu as choisi un sujet très important parce qu'on a parlé de handicap et de cinéma pendant notre émission. Et tu vas nous proposer des images comme médicaments dans le domaine de l'autisme.
Oui, en tout cas comme passerelle dans le domaine de l'autisme. Parce qu'on le sait, hein, avoir un enfant qui est atteint du spectre de troubles du spectre autistique, pardonnez-moi, puisqu'il y a différents degrés dans cette maladie, bah ça pose des vraies difficultés parce que c'est difficile d'entrer en communication avec lui. Alors ça pose plein de difficultés. Hein. L'autisme, c'est très difficile à gérer, mais c'est principalement ce problème de communication et de comment toucher l'enfant et pouvoir susciter son intérêt pour pouvoir ensuite avoir une conversation et puis donc une éducation, ce genre de choses. Un type assez extraordinaire a fait un projet qui s'appelle Laurent Charrier, et qui notamment est très impliqué dans tout ce qui est engagement social. Je vous conseille d'ailleurs ses vidéos et son fil Point de vue social, où il fait plein d'émissions pour expliquer les gestes de premier secours, pour expliquer le problème du traitement des SDF en ville, ce genre de choses. Il est très impliqué, il est éducateur hein, par de plus, et il est très éduqué dans la Croix-Rouge, les maraudes de nuit, ce genre de choses. A fait un projet qu'il a financé par le crowdfunding est fini, hein, mais c'était sur Ulule, qui s'appelle Des Images pour Parler. Il y a un site qui est en construction, il commence à avoir quelques éléments issus du crowdfunding, et comme bien même vous n'avez pas participé au crowdfunding, vous avez au site, hein, le site s'appelle également Des Images pour Parler, qui donne du matériel pédagogique lié soit pour les familles, soit pour les professionnels de la petite enfance. Donc toutes les ressources pour réussir à communiquer avec un enfant atteint d'autisme. Et c'est essentiellement des banques d'images qu'on peut découper. Et donc sur une image, on verra un taxi, sur une image, on verra un hélicoptère ou une moto. Des choses très colorées qui vont attirer l'œil de l'enfant, et donc ça va permettre de générer le contact.
On voit, ça ressemble un peu à des cartes à jouer. Alors le lien avec le cinéma, c'est vrai qu'on pourrait se demander, mais quel est le lien avec le cinéma? C'est que ça ressemble aux premiers photogrammes et des tout premiers âges du cinéma finalement, et on retrouve énormément d'idées visuelles là qui viennent attirer l'attention.
Alors oui, pour moi, il n'y a pas de difficulté pour faire un lien avec le cinéma, puisque le cinéma, c'est d'abord communiquer une émotion.
Voilà.
La difficulté de l'autiste, c'est que il va être fermé à toute communication, à tout sentiment, tout ce qui est lié à l'émotion. Mm-hmm. Et donc par ces images qu'on va pouvoir donner, on peut faire passer des idées très simples, comme pour l'urgence, c'est là, appuie bien sur ce bouton-là en cas de problème, mais aussi de rappeler qu'il faut aller se brosser les dents, de rappeler où sont les toilettes, donc des choses qui nous paraissent d'une simplicité folle, mm-hmm. mais qui pour un enfant atteint de troubles autistiques, pas nécessairement. Et donc de pouvoir avoir ce matériel qui est pré-imprimé pour un professionnel de la petite enfance qui va se retrouver pour la première fois avec un enfant qui est atteint d'autisme, il a il a du matos, j'ai envie de dire, pour faire face à cette situation qui va être délicate. Et donc c'était bien la volonté qu'avait voulu faire Laurent Charrier au travers de cette initiative, donc de donner du matériel prêt à l'emploi en la matière. Donc là, il y a vraiment, enfin, c'est financé, hein, donc n'hésitez pas à aller voir. On ne sollicite pas, enfin, il y a pas de demande d'argent, quoi que ce soit, puisque tout est financé. Mais voilà, c'est une bonne manière de découvrir si jamais vous êtes confronté à cette situation-là, et si jamais vous vous intéressez plus généralement à toutes les questions de relations sociales, médicales, ce genre de choses, allez voir Point de vue social, fait par toujours Laurent Charrier, ou vous le verrez, ses vidéos sont toujours tamarantes, mais il sait communiquer sur énormément d'éléments voilà, pour du bon vivre ensemble.
Merci beaucoup Mathieu pour cet approfondissement. On venait aux ressources du cinéma aujourd'hui avec des images pour parler, donc des images comme thérapie, comme quelque chose qui va nous aider à avancer. Merci beaucoup et puis à la prochaine.
À la prochaine.
Merci, salut.
Pourquoi vous avez fait ces graffitis?
Pourquoi vous faites ça?
Hein?